Bonjour, c'est Christelle. Pour École Noire, je vais lire la suite des extraits du texte d'Angela Davis, La prison est-elle obsolète ? Traduit de l'anglais par Nathalie Peroni en 2014. Chapitre 2. Emprisonnement et réforme. Il faut rappeler aussi que le mouvement pour réformer les prisons, pour en contrôler le fonctionnement, n'est pas un phénomène tardif. Il ne semble même pas être né d'un constat d'échec dûment établi. La réforme de la prison est à peu près contemporaine de la prison elle-même. Elle en est comme le programme. Michel Foucault. Le paradoxe, c'est que la prison est le fruit d'efforts concertés de la part de réformateurs soucieux de créer un meilleur système punitif. Si l'expression « réforme des prisons » nous vient si spontanément à l'esprit, c'est parce que les mots « prison » et « réforme » sont inextricablement liés depuis que l'incarcération est apparue comme principal moyen de châtiment envers les contrevenants à la loi. Comme je l'ai déjà souligné, les origines de la prison sont liées à la Révolution américaine et, par conséquent, à la résistance au pouvoir colonial britannique. Cela peut nous paraître ironique, mais l'enfermement au sein d'un pénitencier était alors considéré comme un châtiment plus humain. Bien plus, en tout cas, que les exécutions et les supplices hérités de la vieille Europe. Foucault ouvre son ouvrage « Surveiller et punir, naissance de la prison » sur la description peu ragoûtante d'une exécution à Paris en 1715. Le condamné fut d'abord soumis à toute une série de tortures innommables ordonnées par le tribunal. On lui brûla les membres avec des tenailles chauffées à blanc avant de verser sur ses plaies un mélange de plomb fondu, d'huile bouillante, de résine enflammée et d'autres substances. Pour finir, son corps fut écartelé, brûlé et ses cendres jetées au vent. Avant l'apparition de l'incarcération, ces châtiments étaient conçus non pas tant pour faire souffrir le condamné que pour marquer l'esprit des spectateurs. C'était avant tout un spectacle public. Des réformateurs comme John Howard en Angleterre et Benjamin Rush en Pennsylvanie se mirent à affirmer que la punition appliquée loin des regards, derrière les murs de la prison, cesserait de s'apparenter à une forme de vengeance pour véritablement permettre aux criminels de s'amender. Il est à noter que le châtiment a toujours comporté une dimension sexuée. Les femmes étaient souvent punies au sein même de leur foyer, avec des instruments de torture parfois amenés sur place par les autorités. En Angleterre, au XVIIe siècle, les épouses jugées trop querelleuses ou indisciplinées étaient condamnées au port du masque de la honte, sorte de casque équipé d'une muselière métallique avec un embout buccal. Même si la punition se limitait le plus souvent à une exhibition en public, le masque était parfois accroché par une chaîne au mur de la maison et la femme châtiée demeurait captive jusqu'à ce que son mari décide de la libérer. Je cite ces châtiments spécifiques imposés aux femmes, car à l'instar de ceux réservés aux esclaves, ils étaient rarement pris en compte par les réformateurs. Parmi les autres modes de châtiment ayant cours avant l'avènement de la prison, on peut également citer le bannissement, les galères, la déportation, la spoliation des biens de l'accusé. La déportation en masse des forçats anglais, par exemple, facilita la première colonisation de l'Australie. Ce sont également des déportés britanniques qui fondèrent la colonie nord-américaine de Géorgie. Au début du XVIIIe siècle, un condamné déporté sur 8 était une femme, et le travail forcé qui leur était imposé consistait le plus souvent à se prostituer. L'incarcération ne fut pas employée comme mode de châtiment principal avant le XVIIIe siècle en Europe et le XIXe siècle aux États-Unis. Le système carcéral européen fut institué en Asie et en Afrique comme une pièce majeure du régime colonial. Jusqu'ici, j'ai délibérément employé un vocabulaire dégenré pour parler de l'histoire de la prison et de ce réformateur. Il faut dire que les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement dans les établissements pénitentiaires de l'époque étaient majoritairement des hommes. Ce détail reflète bien la structure profondément genrée des droits légaux, politiques et économiques au sein de la société. Les femmes n'étant alors pas considérées comme des citoyennes à part entière, il était difficile de leur confisquer par l'emprisonnement des droits dont elles ne jouissaient pas. C'était notamment le cas de femmes mariées qui n'avaient aucun statut devant la loi. D'après le droit coutumier anglais, le mariage équivalait pour les femmes à une mort civile statutaire, symbolisé par l'abandon du nom de naissance au profit du patronyme de l'époux. Par conséquent, la femme était plutôt punie pour s'être rebellée contre ses tâches domestiques que pour avoir failli à ses maigres responsabilités publiques. La relégation des femmes blanches à la sphère domestique les empêchait de jouer un rôle significatif dans le monde capitaliste alors en plein essor. Cela était d'autant plus vrai que le travail rémunéré était considéré comme masculin sur le plan du genre et blanc sur le plan racial. Ce n'est pas un hasard si les châtiments corporels domestiques pour les femmes ont perduré bien après les châtiments corporels pour les hommes blancs. La pérennité de la violence domestique est bien la preuve douloureuse du caractère historiquement genré des modes de châtiment. Pourquoi les réformateurs des XVIIIe et XIXe siècles étaient-ils à ce point attachés au principe du confinement solitaire ? Aujourd'hui, en dehors de la peine capitale, l'isolement total, combiné à la torture, ou en tant que forme de torture en soi, est considéré comme la pire forme de châtiment imaginable. Pourtant, à l'époque, on lui attribuait des vertus émancipatrices. Le corps était isolé et cloîtré afin de permettre à l'âme de s'épanouir. Ce n'est pas un hasard si la plupart des réformateurs de cette époque étaient des hommes profondément religieux. Ils voyaient dans l'architecture et dans le règlement interne du pénitencier une reproduction de l'architecture et des structures de la vie monacale. Les similitudes entre les premiers pénitenciers, les ambitions de réhabilitation personnelle et les établissements supermax contemporains rappellent les mutabilités de l'histoire. Ce qui était jadis considéré comme progressiste, voire révolutionnaire, représente aujourd'hui l'alliance de la supériorité technique et de l'arriération politique. Personne, pas même les plus ardents défenseurs de la prison supermax, n'oserait aujourd'hui déclarer que l'isolement total, y compris sensoriel, est un régime fortifiant et thérapeutique. La justification la plus souvent invoquée aux prisons supermax est que les infamies qu'elles génèrent répondraient à l'infamie des personnages qu'elles abritent, considérés comme les pires d'entre les pires par le système carcéral. En d'autres termes, on ne prétend pas respecter les droits des détenus, il n'y a là aucun souci de l'être humain, comme si les hommes et les femmes enfermés dans ces établissements ne méritaient même pas un minimum de respect et de confort. Chapitre 3. Comment le genre structure le système carcéral. On m'a dit que je ne sortirais jamais de prison si je continuais à me battre contre le système. Ma réponse est qu'il faut être vivante pour sortir de prison, et que l'état actuel de notre système de soins équivaut à la peine de mort. Par conséquent, je n'ai pas d'autre choix que de continuer. Les conditions de vie au sein de l'institution ne font que raviver en permanence des souvenirs de violence et d'oppression, souvent avec des résultats dévastateurs. Contrairement à d'autres femmes détenues qui ont raconté leur expérience personnelle de la prison, je ne me sens pas plus à l'abri ici sous prétexte que les violences ont cessé. Elles n'ont pas cessé. Elles ont changé de visage et de rythme, mais elles sont aussi insidieuses et omniprésentes entre les murs de la prison qu'elles ne l'étaient dans le monde que je connaissais avant. Ce qui a cessé, c'est mon ignorance des faits qui constituent cette violence et mon consentement à les subir en silence. Marcia Bunet. Il est certes vital de s'intéresser aux problèmes spécifiques des prisons pour femmes, mais il est surtout indispensable de modifier notre regard sur le système carcéral dans son ensemble. Certes, les pratiques carcérales sont genrées dans les prisons pour femmes, mais elles le sont aussi dans les prisons pour hommes. Affirmer que les institutions pour hommes constituent la norme et que les institutions pour femmes sont marginales ne fait que renforcer d'une certaine manière la banalisation des prisons contestée par la démarche abolitionniste. Voilà pourquoi ce chapitre s'intitule non pas « Les femmes et le système carcéral », mais « Comment le genre structure le système carcéral ». L'argument le plus fréquent pour justifier ce désintérêt général envers le sort des détenus et les enjeux propres à l'incarcération féminine est qu'il y a proportionnellement peu de femmes emprisonnées dans le monde. Dans la plupart des pays, la part des femmes au sein de la population carcérale tourne autour de 5%. Cependant, les changements politiques et économiques qui ont marqué les années 80, globalisation des marchés économiques, désindustrialisation des États-Unis, démantèlement de programmes d'aide sociale comme l'aide aux familles avec enfants à charge et bien sûr explosion de la construction des prisons ont entraîné une accélération significative du taux d'emprisonnement féminin aux États-Unis et dans le monde. De fait, les femmes représentent aujourd'hui le segment de la population carcérale états-unien en plus forte expansion. Cette inflation est directement liée au contexte économique ayant produit le complexe carcéro-industriel et tant affecté la vie des femmes et des hommes. C'est dans ce contexte d'expansion du système carcéral au niveau mondial qu'il nous faut examiner certaines des données historiques et idéologiques du châtiment d'État appliqué aux femmes. Depuis la fin du XVIIIe siècle, époque où, comme nous l'avons vu, l'emprisonnement s'est peu à peu imposé comme la norme en matière punitive, les femmes condamnées étaient considérées comme étant par essence différentes de leurs homologues masculins. Certes, les hommes qui commettent le genre d'infraction considéré comme punissable par la loi sont qualifiés de déviants sociaux. Néanmoins, la criminalité masculine a toujours été perçue comme étant plus normale que la criminalité féminine. Il y a toujours eu une tendance à considérer les contrevenantes punies par l'État comme singulièrement plus anormales et menaçantes pour la société que leurs nombreux homologues masculins. Lorsqu'on cherche à comprendre cette différence de perception genrée envers les personnes détenues, il faut se rappeler qu'alors même que l'enfermement devenait la norme en matière de répression publique, les femmes ont longtemps continué à subir des châtiments non reconnus comme tels. Par exemple, les femmes ont été plus souvent enfermées dans des instituts psychiatriques que dans des prisons. Les études montrant que les femmes ont plus facilement été internées en hôpital psychiatrique que les hommes semblent indiquer que si la prison jouait un rôle central dans le contrôle des hommes, l'asile a joué un rôle similaire pour les femmes. Autrement dit, les hommes déviants étaient perçus et traités comme des criminels, alors que les femmes déviantes étaient perçues et traitées comme des malades mentales. Cette construction continue à influencer de nos jours les règlements intérieurs des prisons pour femmes. Les psychotropes sont toujours administrés en plus grande quantité aux femmes qu'aux prisonniers masculins. Avant l'émergence de la prison comme principale forme de châtiment, il allait de soi que les contrevenants à la loi étaient condamnés à des supplices physiques, voire à la mort. On a du mal, en revanche, à reconnaître le lien entre les supplices imposés par l'État et les violences conjugales subies dans la sphère privée. Si cette forme de discipline corporelle n'a cessé d'être imposée aux femmes dans le cadre intime du foyer, il est rare qu'on reconnaisse le lien qui le rattache au châtiment d'État. Le châtiment masculin était lié idéologiquement aux notions de pénitence et de réforme de soi. Les femmes n'étant pas reconnues comme pourvues des mêmes droits, elles ne pouvaient prétendre au même processus de rédemption. Selon le point de vue dominant, les prisonnières étaient des femmes irrévocablement déchues, sans la moindre chance de salut. Si les criminels masculins étaient perçus comme des individus ayant simplement enfreint le contrat social, on considérait en revanche que les femmes criminelles avaient transgressé les principes moraux fondamentaux de la féminité. Chapitre 4. Le complexe carcéro-industriel. Pour les entreprises privées, la main-d'œuvre carcérale est du pain béni. Pas de grève, pas de syndicalisation, pas de sécurité sociale, d'assurance chômage, ni d'indemnité à verser. La langue n'est pas un obstacle comme elle l'est dans les pays étrangers. Les nouvelles prisons géantes abritent entre leurs murs des milliers d'hectares d'usines sinistres. Les détenus font de la saisie de données pour Chevron, des réservations téléphoniques pour la TWA ou de l'élevage porcin. Ils pelètent du fumier, fabriquent des circuits imprimés, des limousines, des matelas à eau et de la lingerie pour Victoria's Secret. Le tout pour une fraction du coût d'un travailleur libre. L'exploitation de la main-d'œuvre carcérale par le secteur privé n'est qu'un exemple des innombrables liens entre les entreprises, le gouvernement, les communautés pénitentiaires et les médias. Ce réseau de liens constitue ce que nous appelons maintenant le complexe carcéro-industriel. Ce terme a été inventé par des militants et des universitaires soucieux de dénoncer la croyance dominante selon laquelle l'explosion de la population carcérale s'expliquerait par l'augmentation du taux de criminalité. Au contraire, affirme-t-il, la construction de nouvelles prisons et le besoin concomitant de les remplir de corps humains reposent sur des idéologies racistes et sur la quête du profit. Le châtiment ne représente plus un segment marginal de l'économie. Les entreprises qui produisent divers types de biens, bâtiments, appareils électroniques, produits d'hygiène, etc., et fournissent divers types de services, restauration collective, accompagnement psychologique, soins médicaux, sont désormais directement impliquées dans le business punitif. Autrement dit, des entreprises qu'on pourrait croire à mille lieues de la sphère du châtiment d'État ont à présent des intérêts majeurs dans la perpétuation d'un système carcéral dont l'obsolescence n'en est que plus difficile à reconnaître. C'est au cours des années 80 que les liens entre le secteur privé et le monde carcéral ont connu un renforcement sans précédent. Mais dans l'histoire du système pénitentiaire américain, les prisonniers ont toujours représenté une source potentielle de bénéfices. Ils ont notamment servi de cobayes pour la recherche médicale, positionnant ainsi la prison comme un trait d'union majeur entre les universités et les entreprises. Les prisons privatisées constituent des sources de profit direct pour les entreprises qui les dirigent. Mais les prisons publiques sont tellement saturées de produits et de services fournis par le secteur privé que la distinction n'est pas aussi marquée qu'on pourrait le croire. Les campagnes anti-privatisation, qui présentent les prisons publiques comme une alternative saine aux prisons privées, peuvent induire en erreur.